La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour un nouveau numéro de la mêlée de l'info. Nous allons y débattre, comme d'habitude, des sujets à la une de l'actualité nationale avec ceux qui ont accepté de participer à cette émission aujourd'hui. Je salue tout d'abord Monique Iborra, ex-députée de la Haute-Garonne, membre du parti Renaissance. Je salue aussi Gabriel Robin, essayiste, contributeur des sites Causeur et Atlantico, directeur de l'agence Monceau. Et je salue enfin Mathieu Sauce, secrétaire général du PS31, membre du Conseil national du Parti Socialiste. Bienvenue à vous trois, merci d'être au rendez-vous de la mêlée. Lundi, à l'invitation d'Emmanuel Macron, les dirigeants des principaux États européens se sont réunis en urgence à Paris pour discuter d'une réponse et d'une position commune face aux initiatives de Donald Trump auprès de Vladimir Poutine sur le dossier ukrainien. Si les participants de ce mini-sommet semblent être tombés d'accord pour augmenter les dépenses de défense, ils divergent pour l'instant concernant l'hypothèse d'un envoi de troupes de maintien de la paix en Ukraine. Le président français a dit vouloir convaincre son homologue américain, je le cite, hein, que rien ne peut être négocié sans les Ukrainiens ni les Européens pour le règlement du conflit. Il a assuré par ailleurs que la France ne va pas envoyer de troupes au sol en Ukraine. Il s'est dit prêt également à reparler avec Vladimir Poutine. Alors, compte tenu de l'attitude de Donald Trump et de la situation sur le terrain, sur le front, que vous inspire l'initiative d'Emmanuel Macron, les déclarations qu'il a pu faire et sa vision du rôle de la France et des pays européens dans le règlement ou la poursuite du conflit russo-ukrainien? Et on commence avec Monique Iborra.
Bien, je crois qu'il faut situer ce que nous dit le président de la République, Emmanuel Macron, dans le contexte quand même que nous vivons là maintenant depuis quelques semaines, et en particulier depuis la réunion qui a eu à Munich, où la personne, le général qui représentait Trump, avait dit clairement que des négociations de paix pourraient en effet se faire avec la Russie, avec le président de Russie, mais qu'en aucune manière l'Europe, les Européens seraient concertés, et d'ailleurs le président Zelensky le serait, mais d'une manière tout à fait légère en quelque sorte. Donc la réaction de tout Européen bien constitué, semble-t-il quand même, ce n'est pas de ne pas pouvoir accepter en effet que les Européens, l'Europe, qui maintenant est n'est pas en guerre, mais en tout cas soutient le président Zelensky, il le soutient tout simplement parce que, en effet, l'agression, contrairement à ce que dit Trump, l'agression est venue de la Russie, et non pas de Zelensky. Et donc, finalement, il était tout à fait normal qu'un président de la République, le nôtre en particulier, qui a toujours été européen. Vous savez, moi, j'ai abandonné le PS pour aller derrière Emmanuel Macron, parce que la première fois que je l'ai entendu, c'était à Lyon, il n'était pas encore candidat, et il parlait de l'Europe. Et il m'avait convaincu. Donc, il me paraît non seulement normal, mais un des chefs de gouvernement les plus crédibles, en tout cas pour le moment, en tout cas les plus actifs, derrière lequel on doit tous se retrouver. Et à ce propos, je pense qu'il existe aujourd'hui une déconnexion complète entre ce que nous vivons sur le terrain, en France et peut-être dans les autres pays européens, et la gravité de la situation qui se présente, que ce soit Trump est maintenant tout à fait, il a l'air d'être tout à fait derrière le président russe, et ces deux hommes apparaissent comme étant finalement voulant se partager non seulement l'Europe, mais le monde, et avec des méthodes évidemment qui nous interrogent et qui font que, je pense, nous les Européens, les Français et les Européens n'ont pas encore tout à fait compris quel bouleversement on est en train de vivre aujourd'hui.
Oui, on peut parler de tournant historique. Je crois que ce n'est pas exagéré de le dire. Je donne maintenant la parole à Gabriel Robin, qui s'intéresse beaucoup à ce dossier et depuis longtemps.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. La bascule américaine, on pouvait l'anticiper pendant la campagne électorale. Certains ne voulaient pas y croire parce que quand on regarde bien les équilibres de force au sein du Parti républicain, vous avez quand même les Rhinos, vous avez les Riganiens qui ont encore un logiciel anti-soviétique, anti-russe, et qui s'expriment. On les voit encore aujourd'hui. Le sénateur Graham a parlé, et c'était tout à fait contre ce que disait Trump. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les gens n'ont pas voulu voir que Trump n'en rajoutait pas un petit peu dans le populisme anti-ukrainien parce que il voulait complaire à une partie de son électorat. Non, en réalité, il mettait le frein sur cette rhétorique qui est vraiment le fond de sa pensée sur le sujet. Et le fond de la pensée de Musk sur ce sujet, en fait, il en faisait moins que ce qu'il ne pensait, il en disait moins que ce qu'il ne pensait, parce que il voulait justement ne pas se mettre à dos les Riganiens. Donc c'est une logique inversée.
Et c'est
ce qui explique le retournement aussi brutal. C'est-à-dire que c'est pour ça que, si vous voulez, il n'a pas pris de précaution, ça n'a pas été progressif, c'est d'un coup. En fait, il a proposé à Zelensky donc, cet accord sur les métaux rares. En fait, en plus, c'est rien, il n'y a pas de métaux rares. Non, mais il n'y a pas de terres rares en Ukraine, où ils sont très difficilement exploitables. C'est pas miné. Et en plus de ça, il faut les explorer, donc ça veut dire que c'est pour l'instant on parle sur un truc qui n'existe pas. Et en plus de ça, ça se trouve sur des lignes de front, donc c'est délirant, quoi. Et donc ils ont voulu faire signer cet accord aux Ukrainiens, qui est un racket. C'est un racket, c'est-à-dire que ils ont quand J.D. Vance est venu à Munich, il a tendu une feuille de papier volante avec dessus une proposition de règlement du conflit par les Ukrainiens qui serait donc de la part des Ukrainiens le versement de 500 milliards de dollars d'indemnité et de réparation pour la guerre, alors que les États-Unis n'ont versé que 100 milliards de dollars, 100 milliards au total, et ils ne prévoient d'en verser de plus que 4 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'en fait ils ont arrêté l'aide, et nous ça fait un an d'ailleurs que l'Europe a enchéri son aide, alors que nous sommes dans une situation économique partout en Europe qui est désastreuse, avec des budgets, etc. Donc, en fait, là, le piège est parfait. Le piège russo-américain est parfait. Qu'est-ce qu'il prépare ? En fait, c'est un Yalta. C'est un Yalta sans même qu'on ait combattu. C'est un partage de l'Europe par les Russes et par les Américains. C'est une attaque qui s'accompagne d'une guerre informationnelle très, très forte. Et il y a zéro propagande de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, l'Europe, c'est un objet mou. Alors, je ne suis pas anti-européen, mais je veux dire la vérité, je pense que c'est un objet mou. Et d'ailleurs, j'ai entendu Pete Hegseth, qui est l'un des apprentis de Donald Trump, parler en marge de Munich, en marge de Disneyland. Il a dit quelque chose de très intéressant, à façon cow-boy, quoi. Il a dit vous avez des valeurs, mais les valeurs, ça se tire pas. You don't shoot values. Ce qui compte à la fin, c'est le hard power. Et oui, il est où le hard power de l'Europe ? Combien d'hommes on est capable de mobiliser, ne serait-ce que pour faire de la réassurance ? C'est même pas pour envoyer des troupes au sol. C'est pour faire, parce que là, ce qu'exigent de nous les Américains, c'est de nous faire payer la facture, de négocier eux-mêmes la reddition de l'Ukraine, la paix par la force de Trump. En fait, c'est forcer l'Ukraine à faire la paix, donc à se rendre. Mais en plus de ça, il faudrait que ce soit nous qui assurions le service après-vente sans la force nucléaire américaine et avec le départ des Américains des pays baltes et de Pologne. Donc en réalité, là, on est totalement à poil. Dans une situation comme ça, on est mort. Donc qu'est-ce qui se passe ? Bon, vous avez Emmanuel Macron, effectivement. Il a des défauts, bon, il fait ce qu'il peut. Moi, je trouve qu'il ne va pas assez loin dans le discours, qu'il faudra aller un petit peu plus loin. Bon, pour l'instant, je pense qu'il essaie de se ménager encore, Trump, parce qu'il a une relation assez bonne avec lui. À mon avis, ça ne va pas durer, parce que le Donald, il est lancé, et Emmanuel Macron a beau faire ce qu'il veut, ça ne va pas marcher. Starmer aussi essaye, ça ne va pas marcher. Bon, Emmanuel Macron et Keith Starmer ne sont ni De Gaulle ni Churchill. Il faut quand même dire la vérité.
C'est pas la même époque non plus.
Ouais, mais c'est pas.
Je pense qu'il parle de la carrure.
Je pense que c'est pas la même carrure non plus. Je veux pas être méchant, mais c'est la vérité. Et il faut, à mon avis, que l'Europe s'entende pour avoir une équipe de négociateurs. De la même manière que l'on fait les Américains et les Russes. Les Russes n'ont pas besoin parce qu'en fait, là-bas, il y a une telle verticalité du pouvoir. Mais c'est quasiment le cas aussi aujourd'hui aux États-Unis avec MAGA. Hein. La verticalité du pouvoir, elle est totale. En fait, il a pris en main tous les pouvoirs aux États-Unis. Donc, on a besoin de se doter d'une voix commune. Parce que, vous voyez, vous parliez de l'envoi de troupes et tout ça. On sent qu'il y a quand même des divergences. Moi, je pense qu'en France, par exemple, je vous donne des profils, mais un profil comme celui de Le Drian, avec son expérience, ça peut être un bon profil dans une équipe de négociation. Il faut des gens durs, très dur. Des diplomates, il faut des militaires, et il faut qu'on ait une équipe, en fait, pour avoir une réponse coordonnée et un plan de paix, nous aussi, à proposer. Bah, pas de paix, en fait, parce que qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va poursuivre la guerre. On va mettre les moyens de poursuivre la guerre. Donc on va faire la guerre tout en construisant l'architecture de défense européenne. En revanche, sur une note plus positive, pour conclure, je crois, moi, et moi je pense qu'en fait, se libérer des chaînes soviétiques et américaines en même temps, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'Europe, même si on n'a pas fait tout le travail pour le reste, c'est-à-dire les faiblesses qu'ils pointent sur nous, d'ordre civilisationnel, culturel, etc. Mais si on arrive à faire ça, dans 15 ans, l'armée française, c'est la troisième armée au monde. Notre industrie de la défense, c'est la deuxième exportatrice aujourd'hui, mais ce sera encore plus fort. Et on peut vraiment miser là-dessus. Mais pour ça, il faudra des sacrifices. Il faut rompre avec beaucoup de choses. Il faut rompre avec une partie du pacte vert. Il faut réindustrialiser à fond. Et il va falloir aussi couper dans une partie des dépenses de l'État. Si on ne fait pas ça, on est cuit. Voilà.
Bon. Alors, après cette intervention enflammée et passionnée de Gabriel Robin, Mathieu Sauce, qui est resté très calme et qui a bien écouté, vous, qu'est-ce que vous pensez, d'une part, des initiatives d'Emmanuel Macron, et puis de ce qui a pu être dit jusqu'alors autour de cette table ?
Je ne commencerai pas par les initiatives d'Emmanuel Macron, parce que je pense qu'on peut avoir une certaine forme d'unanimité, pardon, excusez-moi là-dessus. C'est plutôt des bonnes initiatives que de prendre le manche. Mais lorsque la planète est aux prises avec deux fous, en fait, c'est un vrai drame. D'un côté, vous avez un dictateur Poutine qui a une conception impérialiste militaire, et de l'autre, vous avez Trump qui a cette conception, mais pas militaire, mais tout au moins d'essayer de gonfler les muscles pour essayer aussi de conquérir des territoires, parce qu'il y a aussi cette vocation-là derrière.
Il y a le côté businessman aussi.
Je vous rappelle quand même que ses premières déclarations, c'était d'aller planter un drapeau américain, enfin de faire planter un drapeau américain au milieu du Groenland, pour essayer de provoquer aussi. Donc il y a cette forme de provocation permanente entre les deux, entre Trump et Poutine, et maintenant une sorte de connivence aussi. Et c'est pour ça que je suis moi plutôt choqué à l'époque, mais je l'avais dit à cette antenne, de voir des gens qui étaient partisans de Trump et qui applaudissaient des deux mains parmi les politiques français, parce que c'était à l'arrivée de Trump au pouvoir, on avait dit oui, mais tout le monde, c'est parce qu'il y avait une sorte d'intelligentsia qui empêchait l'arrivée, et que maintenant que qu'il était arrivé là, on applaudissait des deux mains. Forcé de constater qu'en réalité c'était contre les intérêts des Européens, et c'est encore plus réélevé par la crise actuelle, mais c'était contre nos propres intérêts français aussi. Donc voilà. Après moi, le positionnement d'Emmanuel Macron est plutôt juste, et j'irai même encore plus loin, c'est-à-dire que, et je pense qu'il le fera dans un deuxième temps, puisque le premier temps c'était un temps de rappel de ce que c'était que les Européens, et que les Européens devaient aussi donner leur point de vue quand même c'est pas vraiment un accord de paix, moi je vais dire que c'est une paix forcée, vous avez utilisé le terme de braquage ou de hold-up, ou je sais plus quelle connivence délictuelle. Ou de raquettes, mais c'est exactement ça. Donc on force les Ukrainiens à accepter une paix, et ça c'est encore plus fort, un intermédiaire d'Elon Musk, mais on voit l'importance de l'information, mais on fait diffuser de l'information et du contenu très méprisant à l'égard du président ukrainien, avec des mensonges. On réinvente l'histoire, et on a un petit côté négationniste un peu dans cet aspect-là, puisque un grand côté négationionniste de la part de Trump, où il prend les propos en expliquant et en reformulant l'histoire, en disant qu'il y avait un envahissement du pays, que l'Ukraine avait provoqué la Russie, avait attaqué la Russie, donc il y avait une représailles derrière, alors que tout le monde a vécu. Là, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas vécu, puisque c'était de notre... c'était il y a 3 ans en arrière, on a tous vu ça, et on a tous vu les troupes russes envahir l'Ukraine.
Quand on leur dit ça, eux répondent que la guerre avait commencé avant, oui, en fait, la guerre a commencé
sûr,
en 2014.
Ouais.
Mais même en 2014, c'était pareil. C'était déjà une invasion russe
d'une province ukrainienne. Donc en fait... en réalité, on réinvente un historique, on essaye de diffuser ça de façon massive par le biais d'informations pour quand même ne pas trop affecter l'image trumpiste à travers le monde. On crée une internationale. Alors, autour de la table, ça va peut-être... mais c'est moi, je trouve qu'il y a de ça derrière, avec cette positionnement d'Elon Musk partout. Dès qu'il y a une confédération de l'extrême droite, vous avez Elon Musk qui intervient maintenant en visioconférence ou qui finance même les différents partis à travers l'Europe. Donc, il y a une sorte d'affaiblissement de ce qu'est le fait européen. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai challenge pour l'Europe d'être... l'acteur ou le troisième acteur de ce premier acteur qui est les États-Unis, deuxième acteur la Russie, et nous l'acteur international qui fait en sorte que on puisse maintenir une sorte de paix, d'équation difficile mais de paix, et faire valoir le fait que la France doit prendre toute sa place dans ce fait européen, puisque c'est nous qui détenons l'arme nucléaire, et la dissuasion nucléaire existe encore, je l'espère, et en tout cas c'est nous qui l'avons, quoi.
C'est même au-delà de ça, on est la seule armée en Europe occidentale
qui est capable de lever
qui est ready battle, quoi. C'est-à-dire ready battle, ça veut dire qu'il y a à peu près
prête à combattre. Oui.
Voilà, qu'il y a à peu près tout ce qu'il faut, mais c'est une armée échantillonnaire, l'armée française. Malheureusement, c'est une armée qui a été pensée pour la coalition.
Mais ce que j'espère,
c'est une armée
qui
a été pensée pour d'autres terrains que celui-là.
Mais
et là,
tout
on est sur un terrain qui consomme énormément de.
Mais ce que j'espère,
de munitions, etc.
Et ce que j'espère, c'est que je reprends les propos tenus par Monique Iborra, mais j'espère aussi qu'on n'est pas déjà gangréné dans les États européens avec le Trumpiste qui s'affirme sur des. J'expliquais, hein, sur des réseaux de financement.
Alors,
de certains partis. On pense à la Pologne, on pense
France,
à d'autres, mais
France,
il y avait une tentative en Angleterre, même si c'est pas de l'Europe.
Alors, Gabriel Robin et après Monique Iborra.
Ça existe dans certains pays d'Europe. En France, c'est pas trop le cas. D'ailleurs, on va vite avoir une réponse quant à l'efficacité de l'influence américaine sur des élections européennes avec l'élection allemande. Moi, je pense qu'elle sera beaucoup plus limitée l'impact que ce qu'on ne croit. Pour l'instant, ça va fonctionner dans d'autres pays qui n'ont pas tout à fait la même type, qui n'ont pas la même anthropologie. Je pense par exemple à la Slovaquie, la Roumanie, dans les pays de l'Est, et puis surtout qui ont une peur quand même qui est beaucoup plus physique. C'est-à-dire quand vous êtes roumain, la réalité de la Russie et de l'Ukraine, elle se fait sentir
derrière
toi. Nous, on l'oublie, mais on a quand même le parapluie nucléaire, justement.
Oui.
On est beaucoup moins exposé. On est exposé à la guerre informationnelle, on est exposé à la guerre commerciale, mais on n'est pas exposé à une invasion militaire sur le sol français.
On est quand même loin
aujourd'hui.
Et puis, on a des histoires qui sont différentes.
Aussi.
Des pays qui ont connu des gouvernements autoritaristes et qui, peut-être... finalement, regarde Trump d'un œil un peu plus... en tout cas, pas le même que le nôtre. Mmh. Et c'est ce qui fait la difficulté, en même temps, la richesse de l'Europe, pas sur le plan financier, mais la richesse culturelle, mais qui fait qu'on a une vraie difficulté, parce qu'arriver à ce que tout le monde soit d'accord, c'est un peu compliqué.
Oui.
D'autre part, l'image de Trump, la première fois, quand il a été élu, c'était... un homme qui venait pour faire des deals, un homme qui avait un argent fou et qui pouvait faire que les Américains deviennent aussi riches que lui. Actuellement, c'est plus du tout ça. C'est quelqu'un qui a réfléchi, c'est quelqu'un qui... On ne comprend même pas comment il a pu être élu par les Américains. On peut le comprendre quand on voit ce qui se passe en Amérique. Mais je veux dire par là que là, maintenant, on a un Trump... qui est décidé comme le président russe, exactement pareil. Ils se ressemblent d'une certaine manière dans leurs objectifs.
Ils sont assez différents quand même.
Ouais,
dans leurs objectifs, ils ont des histoires différentes.
Plus intelligent, il y a aussi.
Mais ils ont, à mon avis, ils ont tous les deux, pour des raisons différentes, et peut-être avec des méthodes différentes, sauf pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est quand même quelque chose sur lequel ils se sont mis d'accord. Et Trump va apparaître, je l'espère, aux yeux des Européens, d'un maximum d'Européens, comme étant quelqu'un qui finalement est décidé à avoir la main sur l'ensemble de ce là où il peut l'avoir, et il raconte tout et n'importe quoi, mais je crois que là, notre rôle à nous, les Européens et les Français en particulier, et à Macron, c'est ce qu'il fait quand même, c'est de bien montrer aux Français que c'est un vrai changement qui arrive sur nous et qu'il faut que tout le monde en ait conscience.
Oui, oui. Alors juste, attendez, Gabriel Robin, ouais. Je vous redonne la parole. Ouais. Juste, Monique Borra, sur le point qu'a soulevé tout à l'heure Gabriel Robin, est-ce que c'est aussi une occasion historique pour les Européens et pour la France en particulier de prendre notre destin en main, notamment en termes de défense, de se doter d'une armée capable de se projeter sur des théâtres d'opérations comme celui de l'Ukraine?
Alors écoutez, là, il y en a un qui l'a dit depuis quelque temps et qui a fait, c'est Macron. Il a doublé, Dieu sait s'il a été critiqué sur le sujet, il a doublé les crédits défense d'une manière très importante.
On a sorti 3 sous-marins nucléaires d'attaque en 2 ans, ce qui est vraiment une performance.
Non, vraiment, mais parce que ce n'est pas la première fois qu'il dit ce qu'il dit. Le problème, c'est qu'il parlait un peu dans le désert, hein, il faut bien le dire. Et donc, avoir des moyens, parce que ça demande des moyens, lui et d'autres ont dit aux Européens, oui, il nous faut des moyens, mais il ne faut pas que ça nous pénalise avec ces 3% que vous nous imposez depuis des années.
Oui.
Donc, évidemment, le Danemark a déjà fait la démarche. Ils ont doublé aussi leur armement. Est-ce que tous les pays vont arriver à le faire? Mais on a un retard phénoménal. C'est ça le problème.
J'étais en Espagne.
Allez-y.
J'étais en Espagne en octobre, au World Forum, je ne sais pas quoi. Là, où il n'y avait que des sociaux-démocrates, dans le genre Enrico Letta, Renzi. J'ai discuté avec eux longuement. La culture militaire, il n'y a qu'en France qu'on a une culture militaire. Et en Pologne. Vous allez en Espagne, ils ne savent même plus ce qu'est une armée.
Oui, mais ils ont eu Franco. Hein.
Mais ils ne savent même plus ce qu'est une armée. Non, mais justement, ils ne savent pas ce que c'est faire la guerre en Espagne. C'est pathétique. Mais vraiment, je vous le dis, c'est avec même en Italie, où c'est un peu mieux parce qu'ils ont une vraie industrie militaire, il y a Leonardo, etc. Ils ont une marine au moins déjà. Après, ils n'ont rien d'autre. C'est assez effrayant quand même de constater ce qui se passe en Europe. Et là, on en voit.
Mais autant j'ai moins de risques de la porosité des Espagnols à l'égard de Trump, autant en Italie, j'ai quand même un petit peu plus de risques.
Non, mais attendez.
Donc avoir une armée, certes, mais avoir une armée qui est en capacité de pouvoir répondre à l'engagement européen et à cette guerre qu'on doit mener contre Trump et Poutine, c'est
mais
encore
attendez.
Différent.
Moi, j'ai critiqué Trump tout à l'heure, mais par contre, je vais quand même faire une précision là. Parce que ce que vous dites me permet de faire cette précision. Les États-Unis lâchent l'Europe. C'est-à-dire qu'ils disent, ils font comme en Afghanistan.
Oui,
ou en Corée, ils disent, allez, maintenant vous débrouillez face aux Russes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au plus contre l'Europe? Ça va être, par exemple, de dire, de refaire, de lever les sanctions russes contre les Russes, de nous faire de la guerre commerciale, etc. Mais on ne sera pas en guerre avec les États-Unis. Concrètement, ils vont nous laisser faire la guerre aux Russes. C'est pas la même chose.
Ouais.
Donc en fait, si vous voulez, même les gouvernements qui peuvent avoir une sympathie vis-à-vis de vis-à-vis de Trump,
ils peuvent
ils
aussi
pas
aller jusqu'à rompre les accords de l'OTAN. Hein.
Tout à fait. Mais je pense même.
Et c'est pas rien.
Non, je vais vous dire ce qu'ils font. En fait, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est pas ça. C'est qu'ils essayent de nous forcer. Et d'ailleurs, on devrait les prendre au mot, à nous quitter l'OTAN. C'est-à-dire que, en gros, ils nous disent regardez, là, vous voyez là, les pays baltes, on s'en va. Vous voyez, là, la Pologne, on s'en va.
Mais enfin,
c'est ça, l'objectif. Mais par contre, pour en revenir à ce que vous disiez sur le premier Trump, 2016-2020, c'est pas du tout le même. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'ils disent aux États-Unis, ils disent qu'il y a des « adults in the room », des adultes dans la pièce. Et je vais vous donner une phrase de John Bolton. On peut pas l'accuser. John Bolton, c'est un vrai républicain. Et qui a été au plus près de la machine Trump avec Mike Pence. Même Mike Pence l'a critiqué aujourd'hui, son ancien vice-président, quand même, pendant 4 ans. Il l'a attaqué très très durement aujourd'hui dans un tweet. Bolton, il a dit à propos de Trump, il a dit « Vous le prenez pour un joueur d'échecs, mais moi, mon job, c'était de l'empêcher de bouffer les pièces sur l'échec. » C'est-à-dire que là, il est en mode revanche, vengeance. Il se venge, d'ailleurs, on le voit ressortir. En fait, c'est très intéressant d'analyser les MAGA, en fait, tous les influenceurs à gros comptes et tout ça sur Twitter. Parce qu'en fait, c'est là que tout se dit. Ils font de la diplomatie en direct, hein, quasiment à la minute. Et ils vous disent, mais Zelensky est venu visiter une usine de Lockheed et Martin en Pennsylvanie et il y avait Biden pas loin. En fait, c'est juste de la vengeance. C'est-à-dire que là, on est vraiment tombé sur des gens qui sont... Musk, il s'est auto-radicalisé sur Internet, en fait. C'est comme un mec de base, quoi. C'est-à-dire qu'il a commencé, d'abord, ça a été par les mêmes et tout, et maintenant, c'est Poutine, il est super basé, il est super traditionnel, etc. Alors, je vais vous dire un truc, justement, un message aux gens de droite qui pourraient écouter. si le wokisme, enfin ce qu'on appelle le wokisme, etc., et cette espèce de progressisme qu'on a en Europe qui est assez énervant, vraiment très très énervant, qui fait qu'on est désarmé justement, est un travers de la modernité, c'est-à-dire le postmodernisme, le magaïsme en est aussi un, c'est l'hypermodernisme. Et l'hypermodernisme, c'est la parodie de la tradition authentique. Et c'est ce que vous avez en Russie, comme aux États-Unis. Ce n'est pas la tradition, ce n'est pas Barès, etc. C'est pas ça. C'est quelque chose d'autre, c'est un phénomène en fait extrêmement dangereux qui s'attaque même aux fondamentaux de la pensée de droite. C'est du populisme, en fait, c'est un césarisme. Et qui devrait, en fait, tout nationaliste conséquent devrait être opposé à ces impérialismes. Voilà.
Mathieu Sauce.
Ouais, non, je rebondis sur l'impérialisme parce que je pense aussi aux Finlandais qui sont pas loin, pour le coup, de la Russie et qui ont fait passer, pour le coup, j'ai quelques connivences avec ce pays, peu importe, qui ont fait passer en vrai un vrai message à leur population de tout simplement de prudence, de regarder aussi ce qui se passe en Russie. Je pense que tous les Finlandais, mais je pense aussi aux Danois à côté, qui eux ont un problème avec les Américains, ben, ils attendent beaucoup de cette Europe-là. Et forcé de constater qu'il faudra, il faut passer par la construction de cette Europe-là. Il faut qu'il y ait un caractère, bien sûr, militaire de plus à donner à l'Europe. Et il faut repenser peut-être, et avant en tout cas que les États-Unis, parce qu'à mon avis, nous vont nous faire faux bond sur l'OTAN. Je ne pense pas qu'ils vont nous obliger, nous, à quitter l'OTAN, mais,
non, mais
eux quitter l'OTAN,
ils vont,
se désengager.
Ils vont moins financer déjà.
Alors là, évidemment,
évidemment,
parce que
coquille vide, oui.
C'est à la fois paradoxal, parce que c'est à la fois un impérialisme américain, mais pour les ressources qu'ils pourraient trouver à travers le monde, mais c'est aussi du protectionnisme à outrance aux États-Unis pour faire que du libéralisme au sein des États-Unis. Donc c'est tout à fait paradoxal ce qu'on est en train de vivre, mais bon, c'est peut-être qu'aussi dans la tête de Trump, il y a quand même des trucs un peu curieux qui passent.
Le protectionnisme, ça marche quand on cible un pays.
Et des messages tarés. Mais donc voilà, et je pense aussi aux Danois, puisque les Danois, il y avait ce conflit du Groenland qui apparaît et qui là, pour le coup, est un conflit avec les Américains.
Oui.
Donc voilà, on est dans un truc hyper troublant, et je voulais juste, en tout cas, conclure mes propos là-dessus. Je pense qu'on n'en a pas pris conscience, en tout cas au niveau de l'opinion publique, on n'en a pas du tout conscience, et j'en ai pour preuve, et c'est rare que je dénonce ça, j'en ai pour preuve la une de la Dépêche au lendemain de la réunion de Paris de lundi soir, qui était ultra importante, avec certes pas tous les acteurs européens, mais tout au moins les acteurs européens sur lesquels on était un petit peu le plus sûr de non-connivence, parce que j'ai vu que les Polonais râlaient, etc.,
non,
de pas être autour de la table.
Mais il les a réunis
mercredi.
Ouais.
Mais dans un premier temps, ils n'avaient pas. Mais je comprends le calcul de mettre des gens qui étaient plutôt en accord avec l'idée de défendre l'Europe. Donc tout simplement, pour finir mes propos, j'en veux pour preuve la une de la Dépêche du midi le lendemain, qui était qu'il n'y avait plus de foie gras à l'Assemblée nationale, et ça a fait une grande une avec une page 2, une page 3, ce qui est rarissime pour la presse. Alors certes, je comprends de défendre les produits gascons, je comprends pour défendre les produits.
Je
comprends bien ça, mais enfin, je trouvais que c'était quand même mal à propos au lendemain d'une réunion aussi importante pour l'avenir, notre avenir à nous, mais aussi celui des Européens et voire du monde, puisque si nous on n'est pas en capacité de résister, je vois pas dans le monde s'il y a cette guerre. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était mal à propos, malvenu, et je m'en suis offusqué et je m'en offusque encore.
Vous avez l'impression qu'il y a une espèce de forme de déni aujourd'hui dans l'opinion publique, mais même peut-être la classe politique française, de ce qui se passe.
C'est pas un déni. Je crois que l'Europe, d'une manière générale, d'ailleurs, ça a toujours été pour les Français et pour des autres, peut-être moins pour les autres, parce qu'ils savaient en tirer, par exemple, les Espagnols ont su en tirer beaucoup plus que ce qu'on a pu nous.
Ça, c'est sûr.
Et donc, quelque chose d'assez lointain, quand même.
Oui.
Même si ça s'était bien rapproché après le Covid, etc., on a vu à quoi pouvait servir l'Europe. Mais, si vous voulez, c'est quand même des sujets qui ne sont pas traités. D'ailleurs, je vous remercie de l'avoir traité, parce que autant la Dépêche, encore qu'aujourd'hui, elle s'agite un peu plus sur le sujet, mais par exemple France 3, on n'entend pas parler, et donc que vous ayez organisé cette réunion, même si elle est, ça me paraît tout à fait important. Mais je crois que on va être sensibilisé parce que de toute façon on n'aura pas le choix et on va bien se rendre compte que on est menacé. Je pense que on va
arriver.
C'est
en cela que je parlais de déni. Et que les gens ne sont pas en train de repousser l'idée que menacé, ça pourrait nous.
On est en guerre.
Oui.
Il faut dire le terme. Nous sommes en guerre.
Oui, mais nous sommes en guerre. Pas, si vous voulez, les Français.
On n'est pas qu'en guerre en Ukraine. On est en guerre.
Dans quotidien,
partout en Afrique.
Regardez. Non, mais excusez-moi. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale.
C'est pathétique.
Ah non, c'est pathétique parce qu'on est à l'Assemblée nationale. Au-delà des bagarres de
Picrocolline.
Voilà, si vous voulez utiliser ce terme un peu. Mais franchement, là, on est complètement, à l'Assemblée nationale, complètement à côté du sujet.
C'est pour ça que je parlais de la classe politique qui n'a pas l'air de s'emparer vraiment.
Non, en fait, la classe politique, le problème, quand elle s'empare des sujets internationaux, c'est pour faire de la politique politicienne française.
Ah oui.
Mais c'est toujours
la politique.
Au niveau
de la commission Affaires étrangères ou de la commission défense, sans manquer de respect aux coiffeuses, mais j'ai deux exemples de députés coiffeuses en commission des affaires étrangères. Quand on est dans des situations pareilles, j'ai écouté quelques interventions, c'est pathétique. C'est-à-dire que déjà, il y a une incompréhension des sujets. Parce que là, on va se retrouver. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'ici un mois, là, vous parlez des pays qui se réunissaient. Mais d'ici un mois, là, il va falloir aussi qu'on noue des alliances avec des pays beaucoup moins fréquentables. Par exemple, les Turcs. Deuxième armée de l'OTAN, la seule en capacité de projection, la seule qui peut mettre des hommes à terre. Parce que c'est bien gentil aussi de faire de la reconnaissance, d'avoir des bateaux, etc. Il y a un moment, il faut avoir des bonhommes, quoi. Il faut avoir des soldats sur place.
Il faut des effectifs.
Bon, les Turcs, on est avec eux en conflit sur l'Azerbaïdjan-Arménie. On est avec eux en conflit avec Sadat, leur société militaire privée qui est actuellement entre le Congo, le Rwanda, etc. Enfin, et pourtant, il va falloir les inviter. Parce que traditionnellement, la Turquie, ils n'aiment pas trop avoir les Russes en mer Noire, qu'ils les ont chassés de Syrie, etc. Donc là, on rentre dans un monde beaucoup plus complexe d'alliances. Et ce n'est pas forcément... j'ai l'impression qu'il va falloir sortir de l'idée que nous, on est gentils.
Et qu'on ne peut s'allier qu'avec les gentils.
C'est un peu vrai, parce qu'en face, là, on a vraiment un véritable... on est un monstre, Poutine c'est un monstre, c'est un véritable autocrate, et c'est un système qui est cynique, qui est oligarchique, et en face vous avez le fou dans un jeu de quilles, le chien dans un jeu de quilles qui est Trump, qui est manipulé par des forces en fait obscures derrière lui.
Non, mais il est malade, franchement.
Voilà, avec des gens qui sont assez, vraiment, parce que je connais assez bien ce que dit Musk, et quand je le vois faire des références parfois, c'était il y a un an, je me dis tiens c'est bizarre, il a lu ça ce mec et tout. Et c'était des références à des trucs que moi j'ai lu il y a fort longtemps dans Éléments et tout ça. Ça me faisait penser par exemple à l'archéofuturisme de Guillaume Fay, mais très mal digéré un peu à l'américaine et tout. Donc en fait là, il se passe un truc
on ne sait pas trop aussi qui sont autour de Musk et de Trump.
Moi je sais.
Si, on le sait, on sait.
Autour de Musk, c'est un mec qui s'appelle Curtis Yavin, qui a écrit un livre. Et d'ailleurs, je vais vous donner vraiment un exemple, là ça, c'est très frappant. Il y a... 10 ans, Curtis Yavin a sorti un livre qui s'appelait Imperium. C'était le premier livre, en fait, d'un gars dans Tech Bros de la Silicon Valley qui s'intéressait à la tradition, conservatisme, etc., mais remanié par la tech. Et à l'époque, il y a une journaliste du Figaro qui s'appelle Eugénie Bastier,
oui.
Et on était amis sur Facebook, et moi, je cite, en fait, Yavin, disant... je mets son livre, un extrait de son livre, je dis, c'est intéressant, quand même, c'est transhumaniste, il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis, il risque d'y avoir un conservatisme qui vient de la Silicon Valley. Et à l'époque, elle, comme elle n'est pas toujours très visionnaire, elle disait, mais non, c'est des libéraux libertaires, etc., enfin, des clichés de l'époque, quoi. Je dis, attention, non, tu verras. Et là, je vois, il y a deux jours, qu'elle était en Angleterre en train de boire les paroles de Peter Thiel, alors que ces gens-là dénonçaient le transhumanisme, la décroissance, etc. Moi, je disais à l'époque, il faut s'adapter à la nouvelle donne, on va se faire tous planter, il ne faut pas tomber dans l'opposition excessive à tout ça, il faut surfer sur l'époque, prendre ce qu'il y a de bien et rejeter ce qu'il y a de mauvais. Et en fait, ce qu'ils sont en train de construire, c'est quoi ? Certains vont parler de fascisme, mais non. En fait, c'est du technocratisme. En fait, c'est une idée qui existait dans les années 30, qui vient de l'International Socialiste, qui est le gouvernement de l'ingénieur. c'est l'ingénieur roi. Et donc, c'est du. Donc c'est, ça, c'est un truc qui est assez peu connu. En fait, c'est le mouvement technocratique, c'est un mouvement des années 20-30. Oui. Et c'est en fait, c'est du cyberpunk. C'est-à-dire que dans le cyberpunk, c'est les méga-corporations qui dirigent. Donc c'est une entreprise privée qui devient l'État global mondial, en fait. C'est
oui.
Et c'est ça qu'ils veulent.
Avec un retrait des libertés, quand même.
Oui,
quoi
oui.
que dise le... Celui qui était là, la personne à Munich, là, le vice-président. Juste un mot sur la paix. C'est pas la paix qui est recherchée, c'est ça le problème.
Ah non,
pour le moment, on n'est pas assuré de paix.
Absolument pas.
Peut-être un cessez-le-feu, en refusant absolument qu'il y ait les casques bleus tels qu'ils pourraient être européens. Donc attention, parce que là, le piège de la négociation, c'est sur quoi ça va déboucher. C'est ça le vrai piège.
Et à quoi ça va nous engager ? Mathieu Sault, si vous avez deux
non,
trois mots pour
y a
terminer.
Pas, je ne fais pas de plus que ça. Bon, j'ai déjà un petit peu exposé toute la pensée, en tout cas la mienne. Non, il faut absolument que l'Europe. De toute façon, on pourra maintenant. Tout repose désormais sur nous, en fait. C'est la fin d'un paradigme différent. Et je pense que c'est une phase, certes, dans l'urgence, c'est peut-être une phase qui n'était pas prévue quand même, parce que la victoire de Trump aux États-Unis, personne ne l'avait prévue non plus. On pourrait revenir en arrière, mais j'aimerais bien ressortir, moi, toutes les. Parce que peu, en tout cas, parler d'une victoire potentielle de Trump.
C'était possible,
mais c'était pas. Voilà, c'était quand même un peu.
Si les chancelleries l'ont pas prévu.
Donc maintenant il faut désormais en vitesse rapide s'assurer au moins de la défense des Européens. Encore une fois, je suis d'accord avec toi, Monique, mais c'était pas un accord de paix là qui est programmé dans l'idée de Trump.
Non.
C'est comment mettre fin à la guerre en 24 heures.
C'est ça.
Comment mettre une pause en fait. Et je pense que c'est à la base permettre aux Russes de rester en Ukraine, dire aux Ukrainiens que grosso modo ils ont perdu et qu'il faut qu'ils s'en satisfassent, et Zelensky le faire péter au plus vite sur des élections futures avec une manip par l'intermédiaire des réseaux sociaux sur Zelensky, tous les méfaits potentiels, et on tuera le chien parce qu'il a la rage.
D'ailleurs, je comprends
donc,
pas
voilà.
que Macron n'ait pas dit à Zelensky de prendre au mot Trump sur cette question d'élection et de le piéger en lui disant mais écoutez, Monsieur le Président américain, je vais proposer moi aussi un vote, mais un référendum sur l'accord de reddition que vous proposez.
Oui.
Vous voyez, il faut être un petit peu, il faut aller un petit peu plus loin, il faut être un petit peu transgressif maintenant face à des gens comme ça.
En tout cas, il y a fort à parier qu'il va se passer encore beaucoup de choses dans les semaines qui viennent concernant le conflit russo-ukrainien. On en reparlera évidemment. Petite pause comme d'habitude dans cette émission. Retour dans une vingtaine de secondes pour un autre débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous revoilà, je suis toujours avec Monique Iborra, Gabriel Romain et Mathieu Sauce. Un sujet beaucoup plus franco-français maintenant, mais tout aussi tragique, a occupé l'actualité cette semaine. C'est ce qu'on appelle l'affaire Betaram, dans laquelle François Bayrou se trouve pour le moins montré du doigt. Le Premier ministre nie avoir été au courant des violences physiques et sexuelles commises au collège-lycée Notre-Dame de Betaram lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale en 1996. Il a même contre-attaqué mardi à l'Assemblée nationale en renvoyant les questions qui lui sont posées à certains ministres du gouvernement Jospin de 1998. Les ministres en question étaient Elisabeth Guigou, elle était à la justice, Ségolène Royal, elle était à l'enseignement supérieur, et Claude Allègre, qui était ministre de l'Éducation nationale, mais lui, bon, il est récemment décédé. François Bayrou a déclaré, j'ouvre les guillemets, « Si je ne savais pas, d'autres savaient. J'affirme devant vous que le procureur général a tenu informer la chancellerie, donc le ministère de la Justice, sur ces affaires à 4 reprises dans l'année 1998. » Cette déclaration a suscité de très vives réactions de la part des personnalités qu'elle vise. Personnellement, qu'est-ce que vous pensez de la tournure que prend cette affaire et croyez-vous qu'elle pourrait avoir des conséquences pour l'actuel Premier ministre au point de le mettre en danger et de l'obliger à quitter Matignon. Mathieu Sauce.
On commence par moi.
Ah oui, oui. Je me sens bien chaud.
Là. À la dernière partie de la question, je dirais rien n'est à exclure à ce stade. Dans le sens où François Bayrou, objectivement, en tout cas, a menti.
Vous affirmez qu'il a menti.
Moi, je pense qu'il a menti. Parce que, dans un premier temps, il a dit « je ne suis au courant de rien ». Puis, les propos sont remontés à la fois du procureur local, à la fois des écrits, à la fois des accusés de réception qui l'ont mis au courant de l'affaire. Il s'est rendu de lui-même, et c'est prouvé maintenant, il s'est rendu de lui-même pour discuter avec le procureur qui lui a fait état de problématiques sans rentrer et sans trahir le secret de l'instruction, mais qui a fait état de problématiques. Donc oui, il y a quand même quelque part tout au moins une omission de la vérité. Alors c'est un oubli qui est quand même très compliqué, mais il y a une part de mensonge. Et après, quand on dénie autant et qu'on laisse supposer de façon tactique et de façon d'agir d'un bon communicant, on accuse les autres pour éviter d'avoir soi-même une responsabilité dans cette affaire-là, c'est une tactique quasi habituelle. Donc voilà, moi ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a un nombre conséquent de victimes, qui a pas loin de 152, je crois, dépôts de plaintes ou mains courantes.
À ce jour,
il y en aura peut-être d'autres, qui avaient une sorte d'omerta qui s'est installée sur cet établissement et qui a duré des années 60 à grosso
90,
modo quasiment 90, une trentaine d'années, qu'a priori, il y avait quand même... moi je le connaissais pas, hein, je suis pas du Béarn, mais en tout cas il y avait une culture locale de choses qui s'y passaient et la rumeur qui diffusait partout cette idée que c'était un endroit ça servait même si t'es passage je t'envoie
oui,
là-bas
oui, c'est
alors moi je suis pas vraiment je suis pas du Béarn et je méconnaissais cet établissement, j'en ai entendu parler
oui.
comme la plupart du commun des mortels lorsque c'est sorti grosso modo assez récemment dans la presse donc voilà, donc pour moi il y avait quelque chose en tout cas qui est de l'ordre j'ai toujours du mal, moi, avec les communications du Premier ministre. J'ai l'impression d'un homme qui devient Premier ministre après l'avoir tant espéré pendant tellement d'années qu'il arrive dans une situation quasiment impréparée. J'ai trouvé que sur Mayotte, il n'a pas été très bon, que sur la submersion, bon, si c'était un appel du pied, c'était quand même assez bizarre. Là, maintenant, sur Notre-Dame
de Bétarame,
oui. Pardon. Il y a quand même cette notion-là de « c'est pas moi, c'est l'autre ». J'ai l'impression qu'au niveau de la communication, il y a quand même des trous dans la raquette et que le ministre devrait vraiment prendre en charge sa responsabilité et savoir ce que c'est que de s'habiller du costume de Premier ministre en France. Ce n'est pas de faire n'importe quoi, ni même de faire de la com, et c'est d'être plutôt soit dans la sérénité, soit dans droit dans ses bottes. Donc voilà, moi ce qui me trouble le plus, c'est qu'il y a quand même énormément d'enfants maintenant devenus adultes, et d'autres peut-être qui sont encore enfants ou dans des âges un peu plus jeunes, mais qui ont été, j'allais dire, victimes d'une sorte d'institution. Ça paraissait très bizarre.
Il y a trois personnes en garde vue. Hein.
Il y avait ses enfants dedans, il y avait sa femme qui en était prof. Enfin, quand quelque chose éclate comme ça dans un établissement, je sais pas, moi, même si c'est des trucs assez fermés.
Un professeur qui a enseigné de 94 à 96 dans
qui avait écrit à Bayrou,
qui dit avoir alerté à plusieurs reprises les autorités à l'époque, dont François
Bayrou. Il a publié un accusé de réception.
Voilà.
Hein.
Bon, alors.
Moi, je sais pas.
Gabriel Robin.
Écoutez, moi, je suis moins spécialiste de ce genre de sujet que du précédent. Je connais des gens qui ont été à Bétarame, qui ont été, non pas violés, mais un petit peu, un petit peu secoués,
malmenés,
violentés. C'était, vous voyez, les trucs, coups de règle sur les doigts. Coup de martinet sur les fesses.
Ça existait malheureusement à l'époque dans d'autres établissements.
Voilà, dans les années jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, ça se faisait. Bon, moi, je pense que ce sont de très mauvaises méthodes éducatives. qui traumatise en fait beaucoup plus que ça ne, que ça n'éduque. Mais bon, est-ce que Bayrou était au courant? Je ne peux pas vous répondre. J'imagine que oui, quand même. Comme l'a dit Monsieur Sos, il me semble assez difficile que quelqu'un de la région de Pau...
Il était président du conseil voilà, général à l'époque.
Dont la femme, dont l'épouse a été professeur, enseignante. Bon, il me semble quand même il me semblerait improbable qu'il n'ait jamais été au courant de quoi que ce soit. Après, il est vrai que comme il était puissant, peut-être que les agresseurs faisaient en sorte de rester discret vis-à-vis d'un tel personnage. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais enfant, on me disait, comme le disait M. Sos, si tu n'es pas sage, je t'envoie à Bétarame. C'était un grand truc à Toulouse aussi. C'était assez classique dans toute la région, parce que Bétarame a toujours eu la réputation d'être un établissement...
Une sorte de maison de redressement.
Voilà. Alors, les parents ne disaient pas ça parce qu'ils savaient qu'il y avait des violences comme ça. Mais c'est parce que c'était une éducation stricte, l'internat, ça fait peur toujours. Bon. Et c'est vrai que dans ces espaces clos, comme ça, il y a quelque chose, moi j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose dans l'éducation et dans l'école, et parce que moi j'ai jamais aimé l'école, de l'ordre de l'expérience carcérale. C'est-à-dire qu'à l'école, vous avez les matons, vous avez les gangs de prison, etc. Moi j'aimais pas l'école.
Et puis vous êtes donc entre des murs.
Et donc évidemment, j'imagine que dans un internat, ce qu'on n'aime pas à l'école, c'est puissance combien quoi ? C'est puissance 1000, quoi. Parce que vous y êtes tout le temps. En revanche, parfois, ça peut être bien aussi, parce que si vous avez suivi cette affaire de cette petite fille qui a été tuée par sa maman, elle avait essayé de dénoncer ça à sa surveillante d'internat, et elle lui avait demandé « Est-ce que je peux rester ce week-end et ne pas rentrer chez mes parents ?» Dans cette affaire, alors, j'ai oublié le nom, je ne sais pas si vous l'avez suivi, c'est cette... Cette adolescente qui a été tuée par sa mère, en fait affamée jusqu'à la mort par sa mère. Est-ce que c'est un cas politique si important, en revanche, par rapport à la personnalité de François Bayrou? J'ai l'impression quand même qu'on ressort un dossier qui est assez ancien, de manière un peu opportune. Je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Effectivement, il aurait pu mieux communiquer et il multiplie les erreurs de communication. Il n'est pas... très bon là-dessus. C'est vrai qu'il a passé, cet homme-là, 40 ans à attendre une position exécutive. Et on s'aperçoit que s'il ne l'a pas eu, c'était peut-être pas pour rien. Hein, il restera seul d'attente assez longtemps, mais je crois que c'était peut-être pas pour rien. Il n'a aucun charisme. Son budget, pour moi, est calamiteux.
Il est passé quand même.
Il est passé, oui,
non, mais donc, parce qu'il en fallait.
C'était côté raisonnable. Hein, il est passé parce qu'il y avait la raison de l'emporter.
Si j'avais été député, je l'aurais voté tout en le considérant calamiteux pour arrêter d'avoir des budgets. Que ce soit le PS ou le Rassemblement National, ils ont voté le budget, mais on sentait qu'ils ont voté le budget un petit peu quand même sous la contrainte en se disant bon. Qui c'est qui va le censurer? C'est toi le PS ou c'est moi le RN? Et vous avez eu cette espèce de jeu entre le PS et le RN pour la censure, et personne a eu. Entre ces deux parties, n'ont pas
Français,
eu.
Mais parce que les Français se sont fait entendre.
Mais est-ce que le budget est bon?
Même François Bayrou lui-même a dit.
Non, d'ailleurs, pour le coup, le budget n'a pas été voté pour le PS au Sénat. Il n'a pas du tout été voté par le PS au Sénat, le budget, et simplement il n'a pas été n'a pas voté la censure du gouvernement, et donc le budget a été accepté sans être voté. Si on veut être plus précis, il n'a pas été voté.
De toute façon, les budgets, il y a eu 49-3.
Oui, donc il n'a pas été voté.
Alors, Monique Borra, sur l'affaire Bétarame.
Moi, ce que je veux dire déjà, c'est que les sévices aux enfants, à cette époque-là, j'en suis persuadée, 30 ans ou 40 ans, n'étaient pas visibles comme ils pourraient l'être maintenant. C'est-à-dire qu'ils le sont, mais pas encore suffisamment. Un peu comme maintenant le MeToo pour les femmes a servi à mettre en évidence les violences faites aux femmes, je crois qu'il manque ça pour les enfants et qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui sont y compris dans toutes les classes de la société qui font l'objet de violences. Ceci dit, est-ce que Bayrou savait quelque chose. Moi, j'avoue que au départ, je pense qu'il a été surpris de la violence de l'attaque qu'il n'avait pas prévue, puisque, question au gouvernement, on n'avait pas entendu parler, la France insoumise, comme ils savent le faire, ont pris. Et je ne dis pas qu'ils avaient tort de le mettre à l'ordre du jour, mais ils l'ont pris comme d'habitude, d'une manière violente, en accusant à partir de ce que disait Mediapart. Alors Mediapart, il peut dire ce qu'il veut, on peut ne pas mettre en cause ce qu'il dit. Il n'empêche que la violence là de l'interrogation qui lui était faite était quand même, à mon avis, il a perdu pied et il a répondu qu'il n'était pas au courant. Est-ce qu'il n'était pas au courant des sévices sexuels ou des sévices physiques? Il a changé ensuite d'opinion, il a montré qu'il avait fait demander un rapport, que ce rapport avait dit qu'il n'y avait pratiquement rien, qu'il y a un inspecteur de l'éducation nationale qui est allé voir sur place, qui est resté 2 jours, et qui fait un rapport en disant ben, il n'y a rien qui puisse être répréhensible. Donc, un inspecteur de l'éducation nationale, on peut imaginer quand même que, on peut l'imaginer, mais à cette époque-là, franchement, moi, c'est pas du tout pour excuser le Premier ministre, parce que si vraiment il était au courant, eh bien, il faut qu'il prenne lui-même la décision qu'il doit prendre. Mais sans, en sortant cette récupération politique, quand même, qui est malsaine d'une certaine manière. Il faut faire la lumière, en effet. Et quand la dernière fois, il s'en est pris en disant « Oui, moi, en effet, j'ai fait ce que je devais faire », c'est-à-dire un rapport sur lequel, finalement, on m'a dit qu'il n'y avait pas grand-chose, évidemment, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qui s'est passé après ou en pendant et qui reste obscur. Parce qu'on n'a pas quand même, aujourd'hui, on n'a pas quelque chose d'absolument clair de ce qui s'est passé à ce moment-là. Oui. Sauf, heureusement qu'il y a les plaintes qui nous font connaître maintenant
oui.
40 ans après, 30 ans après, ce qu'ont vécu ces enfants, ces garçons. Donc, il faut avoir en effet une clarification, il faut se garder de faire, à mon avis, de faire une récupération politique, qu'elle soit pour défendre Bayrou ou pour accuser les autres, mais de toute façon, c'est vrai aussi qu'il y a eu des ministres qui ont été au courant de ce qui se passait. C'est vrai aussi, on ne peut pas le nier.
Ben, si Bayrou, admettons qu'il ait été au courant, on peut difficilement imaginer que les suivants ne l'aient pas été, en revanche.
Ah non, mais on est sûr qu'ils l'ont été. Ben c'est pas pareil.
Mais
je vais simplement, parce que...
Non, mais je veux dire que...
Je veux pas mettre... Madame Iborra dans une, enfin Monique Iborra dans une position un petit peu difficile parce que
non mais moi je suis pas
à une époque bon Monique c'était un secret de Polichinelle mais derrière une des ministres citées Ségolène c'était quelqu'un qui comptait pour toi
un problème mais de personne
non,
hein,
moi parce que par exemple lorsqu'on voit tout de suite le tweet de Ségolène Royal qui sort exactement parce que on peut tout dire hein, sur Ségolène Royal, sur son
ses multiples. Pas que
non, mais je pense à elle qui a été citée. Peu importe, mais en tout cas c'est une personne qui a toujours beaucoup travaillé. Et il se trouve que tout de suite quand Bayrou l'a sortie, elle a sorti tout ce qu'elle avait envisagé, tout ce qu'elle avait fait, etc. Et bon, elle menace et je crois qu'en plus c'est même pas une menace. Je crois qu'elle va se constituer pour porter plainte contre le Premier ministre et pour les insinuations qui a été portées à son encontre. Puisque elle le déclare que elle ne savait rien et elle établit tout ce qu'elle a mis en place à l'époque en 97 sur ces questions-là puisque c'était des questions qui taraudaient pas que l'établissement de Notre-Dame-Bétarame. Moi ce que je veux revenir c'est que je veux simplement éviter que on puisse penser qu'il s'agissait de civisme, d'actes physiques, en tout cas d'éducation qui était un peu différenciée il y a 40 ans. Je veux pas que les gens puissent penser ça. On parle pas d'une claque. On parle d'enfants qui ont été mis à nu. toute une nuit dans une cour parce que ils n'avaient pas fait leur devoir. On parle de sévices corporels qui sont ignobles et qui s'apparentent plus à de la barbarie, qui laisse peut-être pas de traces, mais qui laisse des traces psychologiques certaines.
La preuve qu'il
fallait voir le regard des hommes qui ont témoigné, puisque Bayrou les a rencontrés quand même. Il faut dire ce qu'il est. Il les a rencontrés là. Et d'ailleurs, preuve en est, enfin bon, je reviens après sur le propos qui me venait en tête, mais preuve en est qu'il n'est pas très bon au niveau de la com. De cette conférence de presse qui est donnée après, on voit des hommes qui ont 50, 60 ans maintenant et qui se mettent à chialer parce qu'ils ont dû vivre de l'enfer dans cet établissement-là. Donc je pense qu'il y a une condamnation de fait qui doit être faite par l'opinion publique, en tout cas des méthodes éducatives de cet établissement, les agressions sexuelles, etc. Il y a une enquête qui est en cours parce qu'il n'y a pas que des faits prescrits. Il faut aussi, et je pensais à Gabriel Attal, pour le coup, j'ai trouvé que c'est une proposition qui était plutôt intéressante, de mettre la non-prescription pour des faits d'enfance, sévices à l'égard d'enfants, et une non-prescription dans la loi. Et je pense que ça rendra parfois, ça vous permettra une ouverture des paroles un peu plus tard. Mais juste pour revenir à la com de Bayrou, elle n'était vraiment pas bonne ce jour-là, parce qu'il ne fait même pas un petit mea culpa où je savais, mais je n'avais pas pris conscience du truc. Et voilà,
Je sais que Monique Iborra aurait souhaité intervenir. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais bon, il n'est pas impossible qu'on leur parle de cette affaire. Voilà, donc cette 183e mêlée de l'info est terminée. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé. Ce fut très animé, tant mieux. Merci également à Coraline Camebrac, la réalisatrice de ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci encore une fois à tous ceux qui nous écoutent chaque jeudi et samedi lors de la rediffusion. À la semaine prochaine.